Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
On revient sur la sécurité dans le métro, ou je dirais le sentiment de sécurité. On sait que, par exemple, la fille de Nathalie Collard a été victime d'une agression, station Lionel-Groulx. Quelques heures auparavant, des jeunes qui ont poignardé une personne itinérante. Et on a vu aussi à New York des mesures plus drastiques, plus draconiennes. On a déployé des membres de la Garde nationale puis des policiers supplémentaires. Est-ce qu'on doit s'inspirer des New-Yorkais, Luc?
Non, non. Mais c'est intéressant, par exemple. C'est une question intéressante parce que les New-Yorkais, beaucoup de New-Yorkais se sont dit rassurés par la présence de la Garde nationale, mais un AK-45 contre un itinérant, peut-être pas le meilleur outil. Il y a peut-être d'autres outils qui fonctionneraient mieux, même s'il est en crise. Par contre, il y a des jeunes armés qui ont tiré dans le métro, puis là, la présence de ces gardes armés-là a rassuré. Mais en gros, là, ça, c'est une question extrêmement intéressante sur la psychologie humaine. La chance que tu te fasses agresser dans le métro de Montréal, c'est un événement pour 387 000 passages. Donc, il faudrait que tu prennes le métro deux fois par jour pendant 547 ans pour que tu sois susceptible que ça t'arrive. En termes statistiques, là, c'est évidemment pas la même personne qui prend le métro pendant 547 ans, mais c'est une personne prendrait le métro deux fois par jour pendant 547 ans. Là, elle a une chance que ça y arrive. Et pourtant, le sentiment de sécurité n'est pas là. Le sentiment de sécurité n'est pas là parce qu'on voit défiler. Je fais une comparaison avant. Je fais une comparaison avec les voitures. Ta possibilité d'avoir un accident léger, moyen ou mortalité ou décès en voiture, c'est une fois sur 3300 citoyens. Fait que t'as 30 fois plus de chances. Excuse-moi, t'as 380. Non, on peut pas comparer les deux, excuse-moi, parce qu'un c'est un sur un million, puis l'autre c'est sur des passages. Mettant environ 15 fois moins de chances d'avoir un accident dans le métro que d'avoir un accident en voiture. Et pourtant, quand tu prends ta voiture le matin, tu dis pas « Hé, mes vieux! Hé, mon Dieu! Hé, Simonac! S'il fallait que j'aille un accident, moi, là! » Tu dis pas ça. T'as pas une femme intelligente qui est chroniqueur dans le Journal de Montréal qui dit « Moi, je prendrai plus jamais ma voiture. » Parce que c'est ça que Mme Côté-Pilote a dit hier. « Jamais. Moi, je prends plus le métro là, à un instant. » Mais il y a personne qui dirait « Moi, je prends plus jamais ma voiture. » Pourtant, c'est 15 fois plus la possibilité. Mais c'est quoi la différence? La différence, c'est la répulsion contre une attaque humaine. Un accident, de la tôle, qui se froisse, tu manges le volant en face, c'est pas pareil qu'à quelqu'un qui te crache dessus. Ou qui va te donner une claque sur la gueule, ou qui va tirer les cheveux, parce que c'est ça le genre d'accident qu'il y a dans le métro. Et ce sont des événements que l'on voit. Hein? Même si t'arrives à rien, tu vois quelqu'un qui est en crise. Moi, j'en ai vu souvent dans le métro. Brosse les bras dans tous les sens, d'ailleurs des sens que tu comprends pas, que t'as jamais vu avant. Là. Bing, bang, puis ça parle tout seul, puis ça donne un coup dans la porte. Puis tu le vois bien que lui est pas tout à fait bien, hein? Ou elle est pas tout à fait bien. Et tu le vois, alors que tu vois moins peut-être le danger dans d'autres circonstances. Et ça fait peur. Mais c'est une peur, c'est pas une assurance qu'il va t'arriver quelque chose.
Oui, mais quand même, il y a un enjeu qui est réel, c'est la dégradation du sentiment de sécurité. Les usagers ont vraiment l'impression que le métro est moins sécuritaire et ça, c'est extrêmement inquiétant, c'est préoccupant pour les autorités. D'ailleurs, il n'y a personne qui se cache, qui se met la tête dans le sable. Le grand patron de la STM, M. Caldwell, s'est confié à la presse il y a quelques jours et puis effectivement, il a admis que la STM avait un problème. La répression aussi, c'est pas une solution. Des policiers qui remettent à répétition des contraventions aux personnes itinérantes, ça donne pas de résultats. En fait, la solution passe par une véritable prise en charge des personnes qui souffrent et qui sont les plus vulnérables dans le métro. Et ce n'est pas normal que le métro se transforme en refuge. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a une tendance très, très lourde sur le nombre d'événements malheureux, d'interventions effectuées par les autorités, autant policières que par l'escouade spéciale qui est créée par la STM. 185 interventions par jour, depuis le début de l'année, contre 128 en 2023 et 115 15 en 2022. Donc, il y a une tendance qui est là, qui est très, très lourde. Alors, avant que les choses se gâchent, avant que le climat se dégrade davantage, ben, il faut donner un coup de barre. Et le grand patron de la SM dit, on a besoin de plus de ressources. Il y a, par exemple, 8 travailleurs sociaux du côté de la STM. La STM dit ça nous en prendrait le double. 3 équipes d'intervention et de concertation et mix, ça en prendrait le double également. 100 policiers du SPVM qui se promènent dans les stations. Mais il faut dire que c'est un défi en soi parce que le réseau, il est imposant. C'est 68 stations de métro, 250 lignes de bus. Alors, tu sais, par exemple, une personne itinérante qui est en crise, tu l'envoies à l'hôpital, mais si 2 jours après, la pauvre personne itinérante sort de l'hôpital puis personne s'en occupe, on réglera pas le problème. C'est un immense défi. Bien honnêtement, je sais pas si le réseau de la santé est équipé pour y arriver, mais ça prend des interventions en amont de toutes celles qui se font dans le métro, qui touchent les personnes les plus vulnérables. Il y a la criminalité, la petite criminalité, ça c'est une chose. Ça relève davantage des autorités policières, mais il y a un volet qui relève du ministère de la Santé, des CIUS et des CIS, qui, bien honnêtement, fait défaut, semble faire défaut actuellement.
Un des éléments peut-être sur lequel on pourrait axer, parce que je suis d'accord avec toi, Nathalie, c'est en amont que ça se passe, et comment il faut faire pour que ces personnes-là qui souffrent, évidemment, qui sont en détresse, qui prennent pas leurs médicaments dans certains cas, qui prennent pas leurs médicaments puis qui sont toxicomanes dans d'autres cas, comment on fait pour avoir contrôle sur ces gens-là? Ben, il y a plusieurs solutions qui ont été apportées. On parle souvent de la solution d'Helsinki, qui est une visite par jour. Donc, ils sont dans des grands immeubles qui ont été construits pour eux. C'est les itinérants de la ville, qui étaient plus nombreux que nous, parce qu'il y a un gros problème d'alcool à Helsinki, en Finlande. Et ils reçoivent la visite d'une personne par jour. Alors que nous, c'est là, t'as un protocole, lorsque t'as fait preuve de désorganisation, t'as un protocole à respecter, pas te rapprocher de ceci, pas te rapprocher de cela, prendre telle médication, mais il n'y a pas quelqu'un par jour qui va venir te voir pour voir si t'étais en crise. Patrick Lagacé a beaucoup écrit là-dessus parce que ça l'intéresse particulièrement, puis il a mis le label « Montréal est une ville, est un hôpital à ciel ouvert » et il se fâche de voir que comment fonctionne la commission d'examen des troubles mentaux. Donc, en parlant notamment de ce cas d'homme qui avait frappé une femme, puis il aurait pu vraiment y enlever la tête avec un bat de baseball. C'est juste qu'il a glissé au moment de l'impact. Et elle n'a pas eu une blessure aussi grave qu'elle aurait pu avoir. Peut-être même ça aurait été un décès. Et ce gars-là, il a disparu de la map le temps d'être diagnostiqué. On lui a redonné ses médicaments. On a dit, jugé non responsable, puis on reprend tes médicaments, puis retourne dans la rue. Et il donne un nombre d'exemples comme ça qui se sont produits. Et ça, c'est pas rassurant. C'est le
Prenons l'exemple concret, les centres d'injection supervisés. Les gens veulent pas dans leur cours, sont inquiets lorsque la ville ou lorsque les autorités du ministère de la Santé songent à implanter un centre d'injection supervisée. Mais il se passe quoi? Ben, les ascenseurs, par exemple, qu'on trouve dans les stations de métro se transforment parfois, servent aux personnes qui se droguent à se piquer. Alors ça, c'est un exemple très, très concret. Là, tu te dis, ben voyons, c'est... Puis l'autre chose, les itinérants qui dorment dans le métro parce qu'ils n'ont pas d'autre place à dormir. Bon, ce que j'entends, les autorités de la ville nous disent, ben oui, il y a assez de place en hébergement pour accueillir tout le monde. C'est faux, c'est complètement faux. Arrêtez de mentir, ce n'est pas ça. Ce que vous dites ne correspond pas à la réalité. Moi, ce que je trouve extrêmement préoccupant, c'est que là, on fait un constat, là, aujourd'hui, là, les autorités de la STM, le SPVM, tout le monde est d'accord pour dire ça va pas, là. Il faut que les choses changent. Mais elle est où la volonté politique qui s'exprime fortement pour régler ces enjeux-là? Moi, je sais pas. La mairesse, pour dire pas, la mairesse est allée faire une petite visite de courtoisie là, dans le métro. Ça semblait une opération de relations publiques.
Ça n'a pas semblé. C'était une opération de relations publiques, là, faut se le dire. Mais ouais. Moi, ce que je vois beaucoup dans les commentaires des gens, là, c'est pas la peur d'être agressé. Il y a ça, là, mais c'est le malaise que tu ressens quand tu te retrouves dans le métro. Sur la rue, tu peux changer de trottoir, puis tu peux éviter quelqu'un qui a l'air, comme tu dis, agressif, qui parle tout seul, puis bon. Mais quand tu es dans le wagon, puis que le wagon se déplace, les portes sont fermées, tu te dis, s'il arrive de quoi, là, je suis pogné là-dedans, là. Tu sais, quelqu'un me racontait hier, métro à Atwater, il y a une gang de 9-10 jeunes qui sont dans sur le quai, qui fument puis qui boivent de la bière. Tu passes devant eux autres, tu sais, c'est beaucoup ça. C'est pas juste le fait de dire, quelqu'un va me sauter dessus, va me frapper. C'est de de sentir mal.
Mais est-ce qu'une des solutions, ça pourrait être à ce moment-là? Parce que, tu sais, la solution qu'on a évoquée, Nathalie et moi, c'est de dire, bon, ça prend une opération de santé publique sur la santé mentale, notamment pour les gens qui sont violents. Est-ce que on pourrait dire, ben écoute, le métro, c'est un endroit où il y a énormément de femmes, de tous les âges, entre autres, et plus vulnérables. Ça devrait être un havre de paix. Et pour que ce soit un havre de paix, ben ça prend une opération de sécurité. Une opération de sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vois un gars qui dort sur un banc, c'est pas « ouais, t'as-tu quelque part où aller, c'est toi, tu t'en vas ». Quand tu vois des jeunes, une personne désorganisée, c'est toi, tu t'en viens au poste, dormir au poste pendant la nuit. Et ça, notre société a pas dit oui à ça à date. Mais est-ce qu'elle serait prête à le dire si jamais il y avait une amplification du problème?
On va s'arrêter là-dessus. Et au retour, est-ce que Big Brother va venir fermer nos écrans? Mm-hmm. Est-ce que l'État, c'est ce que Lionel Carman a dit, il pense à une solution pour réduire le temps que les jeunes passent devant les écrans? Mais est-ce que c'est le gouvernement vraiment qui peut faire ça? Voilà une des questions.
La grosse switch.
Tout ta tablette, c'est Big Brother qui dit t'as pas de faire ici.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, on sait tous que les jeunes passent beaucoup trop de temps devant les écrans. J'allais ajouter leurs parents aussi. Alors, on voit les politiciens maintenant arriver et nous dire, ben nous, on va encadrer le temps que les enfants consacrent à la tablette, au téléphone ou carrément à la télévision. Et pourquoi et comment Québec devrait intervenir? Nathalie.
Ben tout d'abord, ça m'a fait sourire de lire cet article où le ministre n'exclut pas une loi. Il suffit qu'un ministre se questionne à voix haute pour qu'on prenne pour acquis qu'il y a un geste qui sera posé. Mais avant d'envisager la possibilité qu'il n'y ait une loi, je pense que le gouvernement et les élus de l'Assemblée nationale doivent mesurer l'éventail des solutions qui existent. D'ailleurs, c'est un enjeu qui est transpartisan. J'espère que les élus ne seront pas tentés de faire de la petite politique avec le temps des écrans chez nos enfants, chez nos adolescents et les impacts qui sont rattachés. Alors oui, il y a des éventails, il y a certainement d'autres solutions, un éventail de solutions qui peuvent être envisagées avant la loi. Et selon moi, la première option qui devrait être envisagée, c'est une vaste campagne de sensibilisation, une vaste campagne télé, radio sur les impacts liés au temps d'écran. Parce que tu le dis, Paul, je pense qu'on s'entend tous au Québec, là, parents comme autorité de santé publique, autorité politique, sur le fait qu'il y a des impacts nocifs liés au fait que les enfants utilisent un trop grand nombre d'heures leur téléphone et leur tablette. Puis, il y a une chose dont on se rappelle, selon moi, pas suffisamment souvent, c'est que les tablettes, elles ne sont pas recommandées pour les enfants de 2 ans et moins. Si vous voulez mon avis, on devrait les interdire carrément parce que chez les tout petit, là, les impacts sont absolument épouvantables sur leur développement, entre autres. Alors, le gouvernement ne part pas d'une page blanche. Il y a déjà une stratégie qui a été annoncée en 2021-2022, qui se termine en 2025, sur comment, effectivement, on peut mieux utiliser les écrans et les tablettes. On l'a fait avec le téléphone cellulaire dans les écoles, dans les classes, en fait. On a commencé par émettre une directive qui dit non, maintenant, au téléphone cellulaire dans les classes. Et lorsqu'on parle aux personnes qui évoluent dans le secteur d'éducation, ce que les gens nous disent, c'est que la prochaine étape devrait être d'adopter une directive pour interdire le cellulaire à l'école, pas seulement dans les classes, mais à l'école. Le jeune arriverait, mettrait son cellulaire dans sa case et il passerait donc sa journée. Uniquement pour les pauses, il pourrait l'utiliser, mais autrement, le téléphone serait interdit à l'école. Ça, c'est une mesure qui pourrait faire l'objet d'un débat. Mais moi, ce que je trouve, et je vais terminer là-dessus, ce que je trouve rassurant, c'est de voir que nos élus, nos politiciens, nos hommes et nos femmes politiques sont sensibilisés à l'impact négatif que crée l'utilisation des temps d'écran chez nos jeunes. Moi, je trouve ça extrêmement rassurant.
Mais moi, je peux pas m'empêcher de voir que dans l'ensemble des enjeux auxquels on fait face, dans tous les domaines, la solution se rapproche beaucoup de ce qu'on croyait être à une certaine époque un régime socialiste. Que ce soit le logement, là on parle des écrans, la violence sexuelle et conjugale, la conduite automobile, l'alcool au volant, etc. Tous les enjeux, ben là, on vient de parler de la sécurité dans le métro. Dans presque tous les enjeux, maintenant, on se dit, ben ça prendrait plus de moyens pour l'État. Il faudrait que l'État soit capable de faire ceci, faire cela, etc. Et on se dirige tout le temps, sans le nommer, vers faire ça. Et il y a un pays en ce moment qui a réussi parce que tous les pays en parlent. Hein. Tous les pays en parlent. Les États-Unis, il y a plusieurs États qui ont empêché, par exemple, l'inscription à un réseau social avant l'âge de 13 ans. La France est en train d'étudier des solutions comme les évoquait Nathalie, qui sont aussi proposées par le Parti québécois ici. Pas d'écran à l'école. Mais il y a un pays qui a décidé de prendre le mort aux dents parce que la situation est particulièrement critique là-bas, c'est la Chine. 98 % des enfants entre 9 et 19 ans ont un téléphone cellulaire. Qui aurait cru ça il y a 20 ans? La Chine, toi. La 98 % des enfants ont un téléphone cellulaire.
Mais c'est intense en Chine, les solutions qui ont été mises l'avant, elles sont extrêmement drastiques.
Mais c'est à peu près les solutions que ça prendrait pour limiter le temps d'écran. Hein. Comme par exemple, la première solution, c'est dès le mois de septembre, Internet sera plus accessible pour les mineurs entre 22h et 6h. Ça empêche les enfants de regarder le téléphone pendant la nuit. Il y a une obligation de pas dépasser 40 minutes par jour pour les enfants de moins de 8 ans. Et encore moins pour ceux de moins de 3 ans. Les fournisseurs d'appareils électroniques ou de téléphones comme Xiaomi ont reçu l'ordre de développer un mode mineur. Donc, il va y avoir dans ton téléphone, quand tu vas l'acheter, mode majeur ou mode mineur. Quand tu le mets en mode mineur, toutes les réglementations vont être implantées dans le téléphone. Donc, le temps d'usage, etc. Parce que ce que font les enfants aujourd'hui au Québec, par exemple, lorsque il y a un contrôle parental, c'est de désinstaller puis réinstaller l'application. Et donc, là, à ce moment-là, l'application est le système ne voit pas que cette application-là est interdite. Puis, ils ont fixé à 3 heures par semaine la limite de temps passé par les mineurs sur les jeux vidéo en ligne. Et la version TikTok, elle n'est plus disponible, restreinte pour les 40 minutes de temps quotidien d'utilisation pour les adolescents. Donc, ces solutions-là, qui sont les vraies solutions, qui vont vraiment arriver à une solution, ce sont des solutions socialistes.
Oui, ben en fait, puis moi j'entends déjà les auditeurs déchirer leur chemise en disant, mais voyons donc, c'est pas au gouvernement adopter une loi pour encadrer le temps d'écran. Ça, le ministre calmant. quel lapsus.
C'est le ministre charmant.
calmant ou charmant.
Calme-toi, là.
Je trouve ça très drôle. Le ministre Carmant est bien conscient que toute intervention ou tout encadrement décrété par le gouvernement ne doit pas se substituer à l'autorité parentale. Ça, c'est fondamental. Ils sont conscients que la ligne est très, très mince. Et parce que c'est une chose là d'adopter des mesures, soit par décret, soit par loi, mais comment tu les fais appliquer? On donnait l'exemple de la France. En France, on a adopté une loi pour fixer une majorité numérique. La majorité numérique, c'est un nouveau concept, la majorité numérique. On l'a fait en Floride aussi à 15 ans. Mais dans les faits, là, tu sais, cette loi-là n'est pas encore mise en œuvre parce qu'on voit pas le jour où on va l'appliquer. Du côté de la Floride, un peu comme la Chine, on a opté pour un procédé assez drastique. Ça prend 16 ans pour t'inscrire sur les réseaux sociaux. Si tu as 14, 15 ans, ça va prendre l'accord de tes parents pour avoir un compte sur TikTok, Instagram ou Snapchat. Puis pour les moins de 14 ans, ben, t'as carrément une interdiction d'avoir un compte sur toutes ces plateformes.
Mais tout ça est contournable. Ce que je veux dire, c'est que l'exemple que je donnais à Luc à micro fermé, j'étais en vacances il y a quelques mois, c'était dans un restaurant d'hôtel, puis il fait beau, puis la vie est agréable, puis t'es en vacances. Puis à côté de moi, il y a une famille américaine, un père, une mère, deux ados. Les quatre sont sur leur tablette. Je veux dire, je comprends, là, mais il y a une limite à ce que l'État peut faire, puis il y a une limite à ce que... Tu sais, les règlements, c'est bien beau, là. Mm. Tu sais, c'est comme l'alcool au volant. Quand t'as dit, c'est dangereux de conduire en état d'ébriété. Ça change rien. Quand tu dis, tu vas perdre ton permis de conduire, là, whoop. Ah. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une mesure qui est associée à une volonté, ben, ça ne donnera pas grand-chose. Puis moi, je pense pas, sérieusement, qu'on peut arriver à mater la technologie pour faire en sorte que les enfants passent moins de temps.
Paul, en plein été, ou au printemps, même avant que les camps de vacances commencent, là, passe à côté d'une cour d'école avec deux terrains de basket, il n'y a pas un chat dans la cour d'école. C'est comment ça? Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Ça marche pas. Et puis je dis à mon gars, moi, elle va jouer dehors. Il dit, il n'y a personne dehors. Il dit, ce qu'ils sont? Ben, ils jouent sur leur tablette. Fait que tout, tu vas y aller jouer. Ben, donc, la solution individuelle ne marche pas tant que ça non plus. Là. Je veux dire,
non, mais l'envoyer jouer tout seul au basket. On va se dire, c'est pratique, une tablette. Ça occupe le petit. Là. C'est comme passe-partout dans le temps. Tu le stationnes, tu fais le souper.
Ouais, mais ce qui n'est pas pratique, les amis, c'est quand l'enfant est occupé 5 heures, 10 heures par jour avec sa tablette. C'est ça qui ne fonctionne pas. Puis c'est ça, c'est la réalité avec laquelle on est confronté. Mais moi, c'est pour ça que je reviens sur la vaste. Une campagne de santé publique, une campagne de sensibilisation. Les jeunes disent, là, ben, et puis ils sont tous unanimes, là, mais le ministre le disait hier dans son allocution. discussion là devant, ils participaient à un forum sur l'enjeu. Tous les jeunes s'entendent pour dire que mes parents me donnent l'exemple. Parce que quand tu vois tes parents toujours sur leur téléphone ou leur tablette, on s'entend. Là, le message que tu reçois comme enfant, ben c'est plus intéressant passer tes journées sur la tablette ou de nombreuses heures sur la tablette que de faire autre chose. Donc, le devoir d'exemplarité, selon moi, il vient des parents. L'exercice de l'autorité parentale, je sais, ça semble, c'est très facile de le dire, mais de l'exercer, c'est autre chose. Mais entreprendre un dialogue avec tes enfants pour leur expliquer à quel point ça peut être problématique. Parce que les jeunes, en passant, ils sont pas fous, là. Les jeunes ados, ils savent très bien, ils connaissent les impacts liés à l'utilisation excessive des réseaux sociaux, là. Ils sont pas caves, ils sont pas des spectateurs qui regardent ça la bouche ouverte, là, puis non, ils savent très bien qu'il y a des impacts négatifs liés à ça. Mais clairement, savez-vous quoi? Moi, on commence à en parler, là. On n'a pas fini, parce que c'est, on règle pas ça dans un débat, là, cette question-là.
Ça en prend plus qu'un projet de loi.
Oui, en fait.
Alors, on va souhaiter que le ministre Calment puisse aboutir avec une réforme.
C'est 23.